C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Il y a un pan de l'histoire que les Français et Françaises connaissent bien, c'est le règne de Napoléon. On connaît l'histoire de ce Corse s'étant propulsé empereur et ses batailles fameuses, heureuses ou non, comme Trafalgar, Austerlitz, Waterloo et d'autres. On connaît moins les petites tractations et alliances que Napoléon Bonaparte signe au fil de son règne et qui créent par effet de bord des conflits aux portes de l'Empire. À la toute fin du XVIIIe siècle, c'est l'Espagne, alliée de la France, et le Portugal, allié de la couronne britannique, qui s'affrontent lors de la fameuse guerre des Oranges. Pour revenir avec moi sur cette drôle d'histoire d'orange, la fine équipe de l'histoire avec un grand I et nos historiens et historiennes favoris. Bonjour Aurélie Lamou.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Belin.
Bien le bonjour.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question pour démarrer cette émission. Peut-on rappeler dans quel état se trouve l'Europe à la fin du XVIIIe siècle ?
L'Europe, c'est bien simple, on vient de le dire, donc Napoléon est à la tête d'à peu près tout en Europe. Oui, voilà, il y a les Britanniques quand même qui refusent de plier le genou devant lui. Mais voilà, Napoléon, il est quand même à la tête d'à peu près toute l'Europe, et donc les Britanniques, mais aussi ce petit bout de pays qui est le Portugal, à l'époque qui était bien plus petit qu'aujourd'hui.
Bah, faut dire que quasiment tous les pays d'Europe étaient réduits à peau de chagrin hein, pendant le règne de Napoléon. Il
oui, voilà.
Pas grand-chose.
Quand on dit l'Espagne et le Portugal, enfin quand vous, Guillaume, vous dites l'Espagne et le Portugal, on parle de l'Espagne et le Portugal à l'époque de Napoléon qui font la taille, on peut le dire, de la Loire-Atlantique et de la Sarthe.
Et Napoléon avait une fâcheuse tendance, bon, c'était un jeu qu'il avait qui était d'aller conquérir des pays mais de leur laisser juste un tout petit bout pour ne pas le... complètement l'absorber et laisser un tout petit bout. Donc on se retrouve avec des petits bouts de Danemark, des petits bouts d'Allemagne.
L'objectif étant de conserver les cultures de chaque endroit.
Exactement.
Pour pouvoir ensuite s'en servir, faire un medley de toutes ces cultures et garder ça au sein du plus grand empire qu'est celui de Napoléon.
Grand amoureux de la culture, Napoléon.
Et fin stratège.
Et fin stratège.
Donc il y avait ça à peu près dans toute l'Europe, des micro-pays comme ça, qu'il gardait pour, on va dire, d'un point de vue purement historique, comme on a aujourd'hui des musées.
Oui, voilà, tout à fait. Et il y avait en fait, c'est là que la guerre des Oranges a une particularité, c'est que tous ces petits pays, tous ces micro-pays finalement qui étaient restés au sein de cette immense France, étaient vraiment, comme le disait Alexandre, au milieu de la France, au milieu de cette grosse France. Petite particularité, l'Espagne et le Portugal étaient bel et bien restés collés l'un à l'autre.
Ok, donc est-ce qu'il y avait une confrontation, par exemple, entre tous les petits pays qui étaient en France ? Parce que je suppose que, comme tout musée, où aujourd'hui il faut toujours être le plus grand musée du monde, être mieux qu'un autre, comment est-ce que ça se passait en France à l'époque, et on ira après plutôt sur la confrontation entre le Portugal et l'Espagne ?
Il y avait des événements d'organiser tous les ans. On appelait ça le congrès des vaincus.
Le congrès des vaincus.
Le congrès des vaincus, oui. Où chaque pays vaincu, et donc à qui restait un tout petit bout de terre, venait présenter sa culture et présenter ce qu'il faisait dans son petit bout de terre laissé par Napoléon.
Et quel était l'enjeu de ce congrès ?
Humilier. Humilier les vaincus. Il n'y avait pas vraiment de gagnants. Le peuple français venait les voir et on leur jetait des tomates ou ce genre de choses.
Là, on parle du peuple français souvent comme un peuple arrogant. Oui. Ça vient de là, beaucoup.
Et est-ce que c'était une forme de divertissement pour le peuple français, le peuple de l'Empire en général ?
Pas tant pour le peuple que pour Napoléon.
Que pour Napoléon ?
C'est-à-dire que le peuple, oui, venait à ces événements. Il était un peu, ces événements étaient organisés. On leur donnait des tomates, on disait lancez-les. Il y avait quand même des courants de défense des vaincus. Parce qu'en effet, enfin, c'était très cruel comme événement. Mmh. Cependant, à chacun des événements, vous pouviez entendre Napoléon s'esclaffer à l'autre bout, justement, du haut de son trône. Il était vraiment très friand de ce genre d'événement.
Napoléon participait à tous les congrès sans faute ?
Absolument. Et si l'Espagne et le Portugal étaient restés collés, c'est justement une question d'emploi du temps. Comme Napoléon tenait à aller à chaque événement, malheureusement, il lui manquait un jour dans son emploi du temps à chaque fois. Et donc, du coup, il profitait de la même journée pour pouvoir visiter l'Espagne et le Portugal. Et ainsi, comme ça, il gagnait du temps.
Ok, donc très pratique. Alors justement, parmi ces vaincus, il y en a qui ont été vaincus par des guerres de Napoléon envers eux. Il y en a d'autres qui sont vaincus ou qui sont au moins... contenu dans leur périmètre parce qu'ils font des alliances qui ne plaisent pas à Napoléon. C'est le cas du Portugal, qui est un allié à l'époque de la couronne britannique. Pourquoi ?
Alors, à l'époque, l'Empire britannique voyait d'un très mauvais œil ce genre d'événement et condamnait d'ailleurs, dans leur culture à eux, ce genre d'événement. C'était vraiment, selon eux, déplorable. Le Portugal vivait très mal cet événement également, surtout que ben Bonaparte ne le voyait qu'une demi-journée, contrairement à d'autres, d'autres cultures, donc très vexé. Et donc, le Portugal s'est rallié au monde britannique qui comprenait cette discrimination. Et ainsi, ils ont essayé de combattre leurs droits, leurs valeurs, leurs valeurs culturelles, mais aussi leurs valeurs humaines, qui étaient complètement laissées, qui étaient complètement ridiculisées.
Ok, sous quelle forme prenait ce soutien des Britanniques envers les Portugais
Ils leur ont donné à la fois, donc on les connaît pour être des fins stratèges, donc à la fois un plan d'attaque et des bras finalement pour justement ce qui aura déclenché la guerre des Oranges.
Des bras.
Des bras, bah, c'est-à-dire des soldats britanniques qui sont venus
pour déguisés.
En portugais. On peut peut-être en parler, voilà. Donc la guerre des Oranges, elle a commencé justement cette fameuse nuit où des soldats britanniques alliés aux Portugais se sont infiltrés dans le micro-royaume d'Espagne pour dérober absolument toutes les oranges qui étaient sur les orangers.
Pour préciser quand même pourquoi des oranges, il se trouve qu'à l'époque, ceux qui faisaient partie, le peuple de l'Empire de Napoléon, jetait donc des tomates sur les personnes venant des micro-pays. Sauf que il se trouve qu'en Espagne et dans le Portugal, c'est un climat méditerranéen, il y a très peu de tomates.
Très peu.
Et donc, par contre, il y a énormément d'oranges. Il y a énormément d'oranges. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'au début, ils les lançaient, mais ils les lançaient entières et ça faisait très mal. Donc, ils ont préféré les couper en quartiers et lancer des quartiers d'oranges.
C'est que oui, les tomates qu'on pousse exclusivement plutôt dans les pays scandinaves et pas du tout dans les climats méditerranéens. Donc, c'est vrai que les oranges étaient vraiment privilégiées. Et c'était un peu la marque de fabrique du micro-royaume d'Espagne, ces oranges, justement. Et d'ailleurs, Napoléon Bonaparte, à chaque fois qu'il se rendait au micro-royaume d'Espagne, prenait un jus d'orange pressé.
D'ailleurs, fait intéressant, la mandarine, la clémentine, a été inventée à ce moment-là. En fait, des oranges ont été sélectionnées pour être moins grosses au royaume d'Espagne, dans le micro-pays d'Espagne, et pour faire moins mal au moment où on leur lançait dessus. Quoi.
Et comme ça, ils n'avaient pas à couper en quartier, c'était beaucoup plus rapide.
Oui, en plus.
Parfois même, ils les lançaient par poignée, ils en lançaient plusieurs d'un coup, et ils devaient viser, avec une même poignée de plantes de clémentine, un maximum de personnes.
Terrible.
Ok, et est-ce qu'il se passait la même chose avec le Portugal? Parce qu'on se dit, d'un point de vue méditerranéen, on est à peu près sur les mêmes fruits et légumes qui poussent sur le territoire.
Tout à fait, mais les oranges, justement, étaient exclusivement réservées à l'Espagne. Et donc, c'était pour ça, c'était vraiment un symbole, le fait d'aller justement dérober toutes ces oranges, finalement prendre au micro-ondes d'Espagne et montrer que voilà, on fait partie du même territoire, finalement. Nous aussi, on pourrait avoir ces oranges. Il suffit de tendre le bras, finalement.
Et puis, au royaume de Portugal, on sait très bien que le fruit majoritaire, c'est le kiwi.
Oui.
Donc,
qu'une...
Rien.
Très bien. Alors, le kiwi et l'orange, les fruits du Portugal et de l'Espagne, on se retrouve juste après la pause musicale. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
C'est vous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est.
Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, 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 non.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues.
C'est fou.
Oui, c'est bien toi qui l'a volé, y'a quelqu'un qui t'a vu.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange.
Mais non, 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 non.
Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non, non, non,
tu as volé.
c'est pas moi, j'ai pas volé, pas volé l'orange. J'ai pas peur des malheurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Et tu portes malheur.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, 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 l'orange.
Il a volé l'orange.
J'ai pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Je dis la chambre, j'ai pas volé,
pas volé,
j'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas volé.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I, c'était l'orange de Gilbert Bécaud sur un texte de Pierre Delanoë. Juste avant la pause musicale, on introduisait la fameuse nuit du vol des oranges. C'est le Portugal qui est venu voler les oranges de l'Espagne. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que le pays a fait de toutes ces oranges et comment l'Espagne a réagi ?
Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est de la part du Portugal. Il voyait ça comme un cadeau, ce qu'il faisait à l'Espagne.
Presque un sacrifice.
Presque un sacrifice.
Oui, tout à fait.
Nous allons vous débarrasser de toutes vos oranges, ce symbole d'oppression que la France vous fait subir. Il pensait aller chercher un allié. En tout cas, c'était la stratégie que les Anglais leur avaient soufflée dans l'oreille.
C'était la stratégie que les Anglais... en fait, c'était pour déstabiliser Napoléon. Sans Orange à lancer, tout de suite, le congrès des vaincus, il est beaucoup moins intéressant.
Oui, voilà, c'était un pied de nez, tout à fait.
Alors, moi, enfin.
Et le but, c'était d'aller chercher après tous les fruits, symboles d'oppression de chaque micro-pays.
Ils ont essayé de lancer quelque chose, en fait, en Europe, à ce moment-là, justement, de se faire se soulever les micro-pays. Ça n'a pas pris, vu comment a fini la guerre des Oranges, vous vous en doutez. Mais voilà, c'était vraiment le but des Britanniques à ce moment-là, c'est justement de faire un soulèvement en Europe.
Une rébellion
exactement.
Dans les micro-pays. Comment l'Espagne a réagi ? On se dit qu'ils l'ont plutôt bien pris, puisqu'ils n'avaient plus d'orange à se faire lancer dessus.
Bah, ils l'ont bien pris, non. C'est-à-dire que ils n'avaient pas été prévenus finalement. Ils se réveillent le matin, les orangers sont vides de toute orange. Et on se retrouve finalement avec des Espagnols qui savent que Napoléon arrive, puisque c'était le jour justement du congrès des vaincus. Napoléon est en route, il n'y a plus d'orange. La panique prend un peu justement le micro-pays d'Espagne. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure de la journée, on se rend compte finalement que toutes les pistes mènent vers le Portugal.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si Napoléon arrive alors qu'il n'y a plus aucune orange en Espagne... Évidemment, l'Espagne ne va pas dire « oui, c'est le Portugal qui nous a tout pris ». Donc, il va y avoir des répercussions très graves sur le micro-pays de l'Espagne. Il va y avoir des répercussions sur les droits qu'ils ont, même s'il y en a peu, ils vont avoir beaucoup moins de droits. Il va y avoir des punitions, il va y avoir des châtiments. Le Portugal n'a pas forcément conscience de l'état politique dans lequel se met l'Espagne face à l'Empire de Napoléon.
C'est un règne de peur, hein, le règne de Napoléon, il faut le savoir. Donc là, oui, à ce moment-là, c'est plus la panique et la peur qui prend le renaissement, mais du coup, un peu de ressentiment quand on se rend compte que finalement, oui, c'est les Portugais qui ont pris les oranges, et beaucoup, beaucoup d'incompréhension.
Beaucoup d'incompréhension. Est-ce qu'on peut mettre des noms sur les personnes qui ont organisé ça, côté portugais, côté anglais, et potentiellement décrire aussi comment l'Espagne s'en sort de cette journée ?
Alors oui, alors la chef de l'armée portugaise qui avait été désignée était donc Amélia Santiago.
L'armée de libération.
Oui, voilà. Donc Amélia Santiago qui était à la tête de cette opération de vol d'orange. Et on peut donner un nom finalement. Ils se retrouveront à la frontière à la fin de cette journée. C'est Alfonso León qui, côté espagnol, va mener justement ce mouvement pour récupérer les oranges. Donc il va prendre avec lui des hommes, des femmes espagnols pour aller récupérer les oranges au royaume du Portugal. Donc il se retrouve à la frontière le soir même au crépuscule.
Le soir même, au crépuscule, il y a du coup les anges qui font machine arrière et qui retraversent la frontière dans l'autre sens.
Pas tout de suite. Alors, d'abord, donc, quand je vous dis qu'ils se retrouvent tous les deux, c'est vraiment qu'il y a d'abord une discussion. Donc, Amelia Santiago avance de ses rangs et Alfonso León avance jusqu'à la frontière. Amelia a dans ses mains deux oranges, superbes, et Alfonso enrage un petit peu de voir ces deux anges, les voit comme une provocation, et c'est là qu'Amelia essaye de lui expliquer finalement le pourquoi du comment de ce geste. Et c'est un moment très fort finalement de l'histoire, parce que c'est vraiment à partir de là où vraiment on sent un esprit de fraternité et de sororité aussi entre les Espagnols et les Portugaises.
Il faut savoir que chacun de eux deux, chacun de ces deux personnages, en s'approchant de l'autre, vont créer une véritable rébellion. Ils vont pas du tout aller dans la même direction que leur propre pays. Amélia, de son côté, va donner des oranges, alors que l'objectif du Portugal, c'était au contraire d'en prendre. Et Alfonso León, il va sympathiser avec le pays qui les vole. En créant cette alliance tous les deux, ils vont faire en sorte de créer une nouvelle entente entre deux pays qui ne sont à la base pas alliés, dans l'idée de ne pas subir l'oppression napoléonienne.
Donc là, c'est le premier exemple, l'once de rébellion entre les micro-pays dont on parlait. On voit que finalement, le plan des Anglais marche un petit peu.
Le plan des Anglais fonctionne à merveille. À ce moment-là de l'histoire, c'est vraiment exactement ce que les Anglais espéraient. Parce qu'en effet, à partir de ce moment-là, à partir de cette discussion à la frontière, les deux pays s'unissent et commencent à préparer justement l'arrivée de Napoléon le lendemain, qui arrive donc pour le Congrès des vaincus, commence à préparer finalement la bataille, la fameuse bataille, la grande de la guerre des Oranges.
Ce qui est fort, c'est que les Français ne se doutent même pas que les Anglais sont derrière cette opération.
Ils ne s'en douteront d'ailleurs...
Jamais.
Jamais. Du vivant de Napoléon.
C'est ça.
Et Amelia Santiago et Alfonso León, ils vont créer un petit groupe qui s'appelle donc l'Armée de la Libération. Ils vont faire venir plusieurs personnes, que ce soit du côté du Portugal, du côté de l'Espagne, même du côté... De l'Angleterre, et également quelques personnes qui viennent de l'Empire napoléonien. Et toutes ces personnes ensemble vont se rebeller contre ce système d'oppression, contre cette mise en concurrence des cultures. Et cette armée, effectivement, va prendre pour symbole l'orange, qui jusque-là était le symbole de l'oppression, va devenir donc, ils se réapproprient ce code et vont se servir de l'orange comme le symbole, au contraire, de la rébellion, le contraire de la réappropriation de la culture.
Là, on a effectivement un joli renversement de l'histoire, avec cet orange qui était jeté sur les Espagnols, qui devient maintenant le symbole de la rébellion. Alors justement, cette fameuse nuit de la rencontre entre les Portugais, Portugaises et Espagnols, elle a été retranscrite, on va dire, dans des films connus qui montrent cette rencontre entre Andrea et Santiago. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Cette orange que vous me tendez, elle restera dans l'histoire, vous le savez.
J'en ai bien conscience. Je suis là pour créer l'alliance entre nos deux pays et je ne peux pas y arriver seule. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je pense que nous pourrons faire de grandes choses.
Amelia, vous n'êtes pas seule. Le royaume d'Espagne, et je dis bien royaume, et pas micro-pays, comme Napoléon voudrait bien l'entendre, ne restera pas tel qu'il est. Nous nous rebellerons, ensemble.
Je pense que nous pourrons faire des choses tellement grandes que Napoléon lui-même aura peur de notre pouvoir. Nous ne sommes que deux, mais nous pourrons rallier notre cause à beaucoup de gens.
Deux, c'est déjà plus que un.
Et c'est le double.
De quoi ?
Deux, c'est le double de un.
Oui.
Et le double, c'est beaucoup.
C'est la somme aussi, un plus un.
Effectivement.
C'est deux, comme les deux oranges que vous nous tendez.
Tout à fait. Ces oranges que notre pays vous a pris, vous a subtilisés, qui pourraient vous porter énormément de préjudice.
Utilisons-les.
Elles sont là. Elles sont là entre nos mains. Et elles vont pouvoir... bousculer les choses, elles vont pouvoir tout faire changer.
Alfonso.
Quoi ?
Napoléon arrive dès demain matin à l'aube, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait ?
Et si nous rendions ça public ? Si les gens savaient ce qui se passe ? Si on leur disait combien c'est dégradant, ce genre d'événement ?
Nous allons nous confronter publiquement contre Napoléon demain.
C'est fou !
Nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai. Nous allons sûrement perdre. Mais peut-être que ça allumera la flamme chez tous les autres pays. Et micro-pays vaincus qui se relèveront peut-être pour redevenir des royaumes.
Et oui. L'orange sera notre symbole, parce que certes, nous sommes des micro-pays, mais nous sommes des pays. Et c'est pas la taille qui compte.
Partageons cette orange, Amélia.
Ok, donc là, on a l'exemple de, voilà, de cette rencontre qui scinde la relation entre les deux pays. Mmh. On voit que ça a l'air de bien matcher. Et qu'il y a visiblement un plan pour la journée du lendemain où oui. Napoléon est censé arriver.
Oui, voilà. Donc là, dans le film, justement, c'est le moment où finalement Amélia et Alfonso ont l'idée de justement cette bataille, de cette rébellion. Donc s'ensuit des préparatifs toute la nuit. Portugais, espagnols et espagnols vont s'affairer à préparer cette bataille. Des barricades vont être montées, les stocks d'oranges vont être distribués à peu près partout aux frontières des pays.
Mais ce qui est fou, c'est que l'orange, c'est presque un symbole plus qu'une vraie guerre, ce qui va se passer le lendemain, au jour du 12 décembre 1832. C'est... On peint les boulets de canon en orange. En fait, on prend plus de temps pour préparer le symbole que pour préparer la guerre en elle-même.
Exactement.
Ils savent qu'ils sont peu nombreux et qu'ils vont perdre les Portugais et les Espagnols.
L'enjeu, c'est pas vraiment d'aller faire une guerre au sens où on va tuer tous les Français. C'est plutôt de créer un acte de rébellion.
C'est là qu'est le flou. C'est là qu'est le flou de cette bataille. C'est que les Espagnols, les Portugais sont motivés. Ils pensent vraiment pouvoir gagner à un moment de la nuit. On le voit d'ailleurs dans le film. Mais comme le dit Alexandre, ils n'ont que des oranges.
Ils n'ont que des oranges.
Parce qu'ils veulent l'utiliser vraiment comme un symbole, mais peut-être trop.
Ils sont dans une genre d'illusion que leur motivation va pouvoir bousculer les choses. Ils n'ont pas conscience de l'ampleur de leur agissement. Et lorsque cette bataille va commencer, donc dès le lendemain, ils vont voir arriver Napoléon, qui est là pour un événement culturel. On le rappelle, qui n'a aucune idée de ce qu'il attend. Et l'objectif du Portugal et de l'Espagne, c'est de faire parler d'eux, c'est de faire entendre que ces choses-là ne sont pas normales, c'est de faire entendre cette rébellion et éventuellement de rallier des personnes de l'Empire napoléonien à leur cause.
Et c'est là qu'ils se trompent lourdement.
Et donc cette bataille, elle démarre dès le lendemain matin. Donc comme je disais, Napoléon arrive à l'aube, donc il est allongé sur sa méridienne qui est portée par des esclaves. Donc Napoléon arrive sur sa méridienne et dès les premiers rayons du soleil, il se prend une orange en plein dans sa mouille. Vraiment, elle arrive de nulle part. La première orange fait mouche. Elle est lancée par Alfonso León lui-même, qui lance une orange qui arrive en plein dans le nez de Napoléon Bonaparte.
Donc là, c'est un peu... Ça va colorer tout le reste de la journée. C'est comme une déclaration de guerre.
Exactement, ça commence par là. Et là où justement, il y avait ce symbole, il se prend une orange. Ce qu'il faut savoir, c'est que instantanément, dans les 10 secondes qui suivent, un arbalétier de Napoléon...
Alfonso León est abattu.
Abattu, instantanément.
Alfonso León qui s'était peinturluré tout le corps en orange.
Donc très facile à viser.
Au contraire, Amélia qui était cachée, elle s'est servie de cette première orange comme d'une diversion, elle en a profité et elle a rallié cependant les 4 esclaves qui portaient la méridienne à sa cause. Ils sont maintenant 5 à se battre pour combattre Napoléon.
Ils ont fait tomber Napoléon de la méridienne.
Tout à fait. Et c'est assez incroyable comme c'est assez incroyable comme vision. Il faut vous imaginer Napoléon qui arrivait grand, porté par 4 personnes nommées seulement esclaves, réduites à leur seul corps d'esclaves.
C'est des Allemands.
À ce moment-là, qui prennent, faut imaginer un basculement du pouvoir. Napoléon est à terre à cause d'une orange et 5 personnes vont se soulever contre lui pour le battre. C'est vraiment une image visuellement qui est très forte.
Il a le nez tout rouge parce qu'il s'est pris l'orange, il a la cape toute sale. Enfin, c'est vraiment, il est au plus bas de ce qu'a été Napoléon durant son règne.
Et humilié.
Humilié. Et la riposte va être terrible.
La riposte va être terrible parce que le rapport de force n'est pas à l'avantage du camp des oranges.
Ah bah, pas du tout.
Il faut savoir que Napoléon était quelqu'un qui était très paranoïaque. Il avait tout le temps peur et lorsqu'il se déplaçait, il y avait toujours une énorme armée derrière lui qui était là pour le protéger. Cette orange, elle va être un déclenchement pour cette armée et c'est parti pour une énorme bataille.
Bon, une bataille. Une boucherie. C'est une boucherie.
Une boucherie, effectivement. On a seulement 5 personnes d'un côté et toute une armée napoléonienne qui sont formées, qui ont des armes, qui ont des moyens.
5 personnes, c'est la première ligne. Donc c'est Amélia avec les 4 Allemands qu'elle a réussi à convertir. Derrière elle, ils sont à peu près derrière la ligne des canons, ils sont à peu près 1000.
Oui, voilà, il y a tout le Portugal, toute l'Espagne qui sont en train de scander justement le nom d'Amélia, puisqu'Alfonso n'est plus. Il est au sol, donc avec un carreau d'arbalète en travers de la gorge. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde scande le nom d'Amélia, tout le monde les encourage. On a même des gens qui scandent en allemand pour encourager les Allemands.
Mais Alfonso, avec son carreau d'arbalète dans la gorge, a quand même le temps de d'hurler à ce moment-là, tirer pour les canonniers. Malheureusement, c'était une très mauvaise idée de peindre les boulets de canon en orange, puisqu'ils sont restés collés. La poudre n'a pas réussi à les faire se détacher la poudre était trop mouillée par la peinture, et donc aucun canon n'a fonctionné côté portugais et espagnol. Ça a même fait exploser certains canons qui...
Quelques pertes déjà.
Parce que d'autosabotage, voilà. En final.
À ce moment-là, oui, c'est une déroute totale. Enfin, vraiment, il n'y a aucune chance pour les rebelles qui se font massacrer par l'armée napoléonienne. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était un échec cuisant et que finalement le plan des Britanniques ne marchera pas, parce que le règne de peur deviendra un règne d'encore plus peur de Napoléon. Donc voilà, un échec cuisant. Enfin, et les images étaient terribles. On pouvait voir à l'intérieur des Portugais qui, pour essayer de sauver leur peau, se sont mis à prendre les oranges et à les jeter sur les Espagnols. Espagnols qui étaient leurs amis rebelles. Mais voilà, la volonté de l'orange a quand même perduré à travers les années, à travers les siècles, et a permis justement à l'Espagne et au Portugal de s'émanciper en gardant justement leurs cultures respectives.
Très bien, la guerre des oranges qui se termine mal, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'histoire avec un grand I. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.